8h16 sur France Culture, l'heure d'À la source avec vous, Matteo Caranta. Chaque semaine, on le sait maintenant, vous remontez le fil d'un mot ou une idée qui marque l'actualité. Et aujourd'hui, un À la source au pied de la lettre, puisque c'est d'un fleuve que vous nous parlez, la Seine.
Oui, depuis quelques mois, Quentin, la Seine concentre beaucoup d'attention, suscite bien des inquiétudes. Les Jeux Olympiques seront inaugurés dans 104 jours. Et encore cette semaine, l'ONG Surfrider Foundation a révélé que la qualité de l'eau de la Seine était bien insuffisante pour accueillir les compétitions de triathlon et de nage en eau libre. Pourtant, la mairie, comme les organisateurs des Jeux le promettent, il sera bien possible de plonger dans le fleuve d'ici la fin du mois de juin. Mieux encore, la Seine et la Marne sont amenées à devenir des lieux de bains publics dès 2025. Une révolution, un nouvel usage du fleuve favorisé par les JO qui charrie avec lui la longue histoire qu'entretiennent Paris et la Seine, souvent racontée par des auteurs de passage et pas des moindres. Imaginez, nous sommes en 357 et l'empereur de Rome en devenir, Julien, raconte le rude hiver qu'il passe dans sa chère Lutèce, ce sont ses mots. Les Celtes l'appellent ainsi la petite ville des Parisies, poursuit l'empereur. C'est un îlot jeté sur le fleuve qui l'enveloppe de toutes parts. Il est presque toujours au même niveau. L'eau qu'il fournit est très agréable et très limpide à voir et à boire. La Lutèce de Julien se définit par la Seine. Elle aurait fait la joie du comité olympique. Et les Gaulois prient sa déesse, sa nymphe, Sécana, dont on a retrouvé le sanctuaire Source Seine, là justement où le cours d'eau n'est encore qu'un ruisseau marécageux à quelques kilomètres d'Alésia. On prie Sécana, qui est une nymphe bienveillante et qui pourtant n'est pas toujours ce long fleuve tranquille décrit par l'empereur romain de passage. Plusieurs fois, elle envahit, elle paralyse la capitale. 1196, le roi Philippe Auguste est obligé de quitter son palais. 1408, les deux ponts de la rive droite sont détruits. 1499, le pont Notre-Dame est emporté. L'île est isolée. 1689, la détruit les vitraux de la Sainte-Chapelle. Chaque siècle a sa crue. Les exemples sont nombreux et le peuple de Paris qui vit avec son fleuve s'accommode de ses crues occasionnelles. La Seine est un lieu de vie. Certains quais sont recouverts de maisons. C'est un lieu de commerce, de port, d'échange, de rencontres, de porteurs d'eau, de blanchisseuses, de meuniers, de pêcheurs, d'échoppes, de marchés. Et l'historienne Isabelle Bacouche nous raconte très bien comment la Seine a été jusqu'à la fin du XVIIIe siècle un espace partagé de Paris qui a vécu au temps du fleuve, avant que les grands travaux de modernisation, la destruction des maisons, la réduction des ports, n'en fassent un fleuve étranger à sa ville. Un fleuve loin de Paris, écrit-elle, qui ne fait qu'y passer sans vraiment s'y arrêter. Seul point d'attache survivant entre la ville et son fleuve, nous y revenons, ce sont les bains.
Alors Mathéo, on se baigne dans la Seine ?
Oui, on se baigne beaucoup, Quentin, dans la Seine. Les bains sont nombreux tout le long de fleuve. Ce sont des piscines flottantes, on en compte une dizaine, peut-être même 20 en 1900. Des bains mixtes, des bains exclusivement féminins, d'autres pour hommes, certains très cotés, d'autres réputés mal famés. Et l'un d'entre eux en particulier a marqué les mémoires, c'est la piscine Deligny, la plus ancienne de Paris, fondée en 1801. Deligny flotte à quelques mètres de l'Assemblée, alors qu'il est interdit de se jeter dans le fleuve depuis 1923. C'est là, à Deligny, qu'apparaissent les premiers solariums dans les années 50, les premiers topless, les concours de plongeon, un Paris-plage avant l'heure. 1993, la piscine fait naufrage, le fleuve l'avale en 40 minutes seulement, comme il engloutit l'or, les bateaux, les bijoux, les armes dans la complainte de la Seine de Maurice Mack. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de poèmes sur la Seine, Quentin. Elle est meurtrière chez Hugo, pauvre chez Verlaine, on sinoie chez Aragon. Prévert nous dit, lui, que la Seine n'a pas de soucis, qu'elle se la coule douce le jour comme la nuit. C'est joli. Voilà, ce sont peut-être les derniers liens du fleuve avec la capitale. François Sureau note ce paradoxe. Le fleuve des Vikings, d'Arsène Lupin, des incendies et des révolutions et des faillites n'a pas créé de civilisation sécanienne comme il y a des peuples du Danube. Paris lui a largement tourné le dos et peine à faire volte-face. Il faut partir donc à la reconquête de l'eau. Et c'est tout l'enjeu plus politique que poétique qui anime les élus de la ville depuis la fin des années 80. On se souvient de la promesse pour toujours célèbre de Jacques Chirac. Se baigner dans la Seine, ce sont celles désormais d'Anne Hidalgo et d'Emmanuel Macron qui jurent d'endosser un maillot de bain et d'y faire un plongeon démonstratif devant témoins. Un moyen de marquer les esprits, bien sûr, mais peut-être aussi l'espoir de casser le sort et de réconcilier Paris avec son fleuve. Pour l'instant, à 104 jours des JO, on nage plutôt en eau trouble.
Merci beaucoup, Matteo Caranta, d'être remonté si bien à la source de la Seine. Et puis on espère que la Seine, justement, retrouvera sa fonction première, sa fonction originelle de la baignade. Et peut-être que nous irons ensemble.